Et alors la vieille...
Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h41, soyez tous et toutes les bienvenus dans l'Instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Deux femmes journalistes signent une enquête particulièrement fine, symptomatique et bien menée sur notre armée, s'attachant à dévoiler le sort, ou plutôt la dérive, des jeunes recrues. Sexe, drogue, ennui, traumatisme et déchéance sociale, une vérité que la Grande Muette s'emploie à cacher, précisent d'emblée les auteurs. Et pour cause, elle en a besoin des jeunes, de beaucoup de jeunes. Mais quel avenir leur réserve-t-elle? Ce document interroge plus que le destin militaire contemporain. Il met le doigt sur les techniques de communication de l'armée, celles qui lui servent à recruter, mais aussi celles qui lui servent à verrouiller.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Je me suis engagé en croyant bien faire. Au final, je me suis fait baiser par l'armée de terre. Jeune homme, si tu veux un bon conseil, fais bien attention aux soi-disant 400 métiers qu'ils te proposeront. Nettoyage, balayage, lavage de camion. La seule arme que t'auras dans tes mains, ce sera ton chiffon. Ton nom, c'est Froid, Froid, Froid.
Et elles la connaissent par cœur parce qu'elles la citent dans leurs livres. Bonjour à toutes les deux, Justine Brabant. Et bonjour, Leïla Mignano.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur, donc, à demain de Mauvaise Troupe, ce livre qui vient de sortir aux arènes. Le sous-titre dérive des jeunes recrues de l'armée française. Je précise, Justine Brabant, que vous avez été journaliste à Mediapart, reporter, que vous avez beaucoup travaillé sur l'Afrique, beaucoup travaillé sur les guerres africaines, où forcément vous avez déjà croisé l'armée française. Leïla Mignano, La guerre invisible, enquête sur les violences sexuelles dans l'armée, c'est votre précédent ouvrage. Il n'empêche, on y vient dans deux minutes, parce que là, on est mardi. On est mardi, et comme chaque mardi, l'humeur numérique de Xavier Delaporte. Ça va, Xavier?
Ça va très bien. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour à toi, la fenêtre de la porte, c'est parti.
Parmi toutes les pathologies dont on attribue la cause au numérique, il y en a une dont vous avez sans doute entendu parler et qu'on désigne sous l'acronyme FOMO, F-O-M-O, pour Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. C'est elle, cette peur qui expliquerait notre usage compulsif de notre téléphone que nous touchons plusieurs dizaines de fois par jour pour regarder ce qui se passe sur notre fil Facebook, sur Twitter, Instagram, Snapchat ou alors sur l'appli de notre journal favori. C'est elle, cette angoisse qui explique qu'on ne résiste pas à l'apparition d'une quelconque notification. Alors évidemment, des gens en souffrent. Évidemment, il y a des usages marketing et marchands de cette compulsion qui ne sont pas reluisants. Mais si on y réfléchit, est-ce que c'est vraiment si terrible que ça, cette crainte? Est-ce que c'est un défaut dont on doit vraiment se débarrasser? Alors j'ai pu constater, au cours de ma désormais longue carrière, qu'il n'y avait pas de bon journaliste qui ne soit affublé de cette angoisse. La crainte de rater quelque chose. C'est elle qui fait aller quelque part où quelque chose frémit. C'est elle qui fait rester un peu plus longtemps. C'est cette peur qui fait qu'on se lance dans sa 20e rentrée littéraire en espérant y dénicher le nouvel auteur dont on va parler. Bref, la peur de rater quelque chose, ça peut avoir un autre nom, ce serait la curiosité. Et je n'y ai jamais vu un vilain défaut. Alors bien sûr, on peut regretter que cette épidémie ait élargi ses victimes au-delà du monde journalistique, parce qu'un journaliste est rétribué pour cette folie, pas l'internaute lambda. On peut aussi se dire que cette peur de rater quelque chose est une des causes de l'emballement des réseaux autour d'un sujet, quand tout le monde se met à partager ou commenter une même information. On peut se dire aussi que cette crainte serait vertueuse, peut-être si les informations partagées concernaient l'état du monde ou l'état de la pensée, mais que bien souvent, il faut l'avouer, si on ressent l'injonction presque physique de regarder ce qui s'affiche sur notre téléphone, c'est pour une notification sans grand intérêt, du genre « bidule a aimé votre photo ». Mais je ne crois pas qu'on soit là au cœur du sujet, car la vraie question, c'est la suivante. Est-ce que tout cela date vraiment des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils n'ont pas donné une autre forme et une autre intensité par ces outils à un phénomène qui remonte à plus loin? J'ai trouvé la réponse dans le dernier livre de l'historien Gérard Noiriel, dans lequel il examine notamment l'émergence d'une presse de masse à la fin des années 1880. À l'époque, la combinaison de la démocratie et de l'élévation du niveau scolaire aboutit à la création d'un très grand nombre de journaux en France et qui se mettent à être distribués à grande échelle partout en France. Avec cette émergence, c'est le terme même d'actualité qui apparaît. Et il ne faut pas attendre longtemps pour qu'on en dénonce les effets. Voici ce qu'écrit Émile Zola, le grand Émile Zola, en 1889, je le cite. « Le virus de l'information à outrance nous a pénétré jusqu'aux os. Et nous sommes comme des alcooliques qui dépérissent dès qu'on leur supprime le poison qui tue. » Voilà, 1889. Peut-être que si on voulait vraiment ne plus avoir peur de rien manquer, c'est tout simplement l'actualité qu'il faudrait supprimer.
Merci Xavier Delaporte. Si vous aussi, vous n'arrivez pas à arracher son portable à votre adolescent, vous réécoutez Xavier sur France
et
Inter.
Et vous n'aurez aucune solution.
.fr, voilà. Et je pense, moi, qu'on peut être un immense journaliste sans être atteint de cette peur de rater quelque chose. Et que même, parfois, plus on se tient loin du monde, et mieux on le regarde.
L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter.
J'ai les petits jeunes... Ils ont moins d'un an de service et ils veulent arrêter. Ils se sont engagés, c'est bien, ils vont jusqu'au bout de leur contrat, mais ils savent déjà que, alors qu'il leur reste plus de 4 ans, ils savent déjà qu'ils re-signeront pas.
Je suis le gardien de valeurs qui n'ont pas de prix.
Toujours solidaire. Jamais solitaire.
Je reste en éveil pour que vous dormiez en paix.
Je veux être le nouveau souffle, juste après la tempête.
Toujours debout, j'avance pour faire reculer la peur.
Leur livre vient de sortir aux éditions des Arènes. Mauvaise troupe, c'est signé Justine Brabant et Leila Mignano. Elles sont toutes les deux mes invitées. Vous venez d'entendre l'extrait d'un reportage d'envoyé spécial avec un témoignage de militaires, ou plutôt d'anciens militaires, suivi par un clip de campagne de l'armée de terre qui a été diffusé en 2016. Il faut se rappeler qu'après les attentats contre Charlie en 2015, la France déploie 10 000 militaires, plus de soldats à l'intérieur qu'en mission à l'extérieur. 10 000 militaires sur son territoire, ça s'appelle l'opération Sentinelle, très populaire selon les sondages, mais en réalité un calvaire et un non-sens sur le terrain. Vous allez le démontrer toutes les deux dans la première partie de votre ouvrage. D'abord, parlons de ce recrutement historique, parce que finalement c'est une offensive médiatique de l'armée française. Justine
oui,
Brabant.
Effectivement, comme vous le disiez, 10 000 soldats en permanence sur le territoire français pour l'opération Sentinelle, ça veut dire concrètement que l'armée doit recruter à des niveaux pas connus jusqu'à présent, c'est-à-dire à peu près 15 000 personnes par an, sachant qu'en parallèle, il y a 12 000 soldats qui sortent. Donc en fait, les recruteurs de l'armée de terre le disent eux-mêmes, ils doivent gérer une sorte d'armée de flux. Et pour ça, il faut matraquer, il faut
donc
matraquer.
Donc c'est une passoire, c'est un turnover permanent.
C'est un turnover permanent, oui, bien sûr. Et du coup, pour assurer ce turnover, pour avoir un petit peu de la chair fraîche en permanence, il faut matraquer, que ce soit à travers les trucs sur les affiches sur les abribus sur un 4x3 qu'on a l'habitude de voir, et que ce soit
il y en a plein dans Paris autour de la maison de la radio,
il y en a
d'ailleurs
plein autour de la maison de la radio, et d'ailleurs les militaires qui patrouillent en Sentinelle nous disent aussi que souvent ils passent devant ces affiches qui les avaient convaincus dans un premier temps de venir dans l'armée, et puis qui se rappellent que c'était peut-être pas une excellente idée. Et puis une nouveauté, ce qu'on décrit, c'est qu'ils utilisent aussi énormément maintenant les réseaux sociaux pour
gagner le cœur de ces jeunes militaires. Oui, il faut détailler cela parce que c'est une stratégie très au point, même si l'armée française est assez en retard sur l'utilisation de ces outils numériques. Mais on utilise Facebook, on utilise Instagram, on met des youtubeurs au service de l'armée française. Justine Brabant.
On met des youtubeurs, alors par exemple Thibaut InShape, qui est quelqu'un qui était très, très, très populaire dans le milieu du culturisme avant, et qui a en fait essayé d'attirer à l'armée tous ces jeunes qui étaient un peu fans de sport, qui aimaient aller à la salle, et qui l'a fait donc en faisant des vidéos où il expliquait qu'il s'engageait à l'armée, et puis il décrivait ça comme l'endroit parfait pour se faire des muscles en acier. Ils le font par exemple par Twitter ou par Facebook, par des messages aussi plus simples. Les recruteurs, par exemple, ils aiment bien comparer, on a remarqué, on a découvert ça, ils aiment bien comparer l'armée à des grandes aventures ou à des programmes de télévision. Donc, ils tweetaient par exemple sur le compte de l'armée de l'air, on peut lire des choses comme « Cette année, je me motive et je deviens agent 007 dans l'armée de l'air, avec ou sans le bac. » Ou « Nous aussi, on fait Koh-Lanta dans l'armée de l'air, trouvez votre métier et c'est parti pour l'aventure. »
Voilà. Bon, et les suivants sont sur Star Wars. Donc évidemment, l'armée utilise les réseaux sociaux parce qu'elle s'adresse à une population qui a grandi, une population de milléniums qui a grandi dans un univers numérique. Du coup, il faut, de la part de l'armée, gérer aussi l'utilisation de ces gamins, entre guillemets, l'utilisation que font ces gamins des réseaux sociaux. Pour vous, ça va être une source formidable, Leila Mignano et Justine Brabant. On écoute ce que ces jeunes recrues postent tous les jours sur Periscope, par exemple.
Allez, c'est parti. Allez,
allez,
allez, plus haut,
défonce-le.
Allez,
allez, allez. Oh là là. Maîtrise-le, maîtrise-le.
Allez, feu. Fight.
Il est trop
mal. Allez, sors du ring, sors du ring.
Leïla Mignano, vous avez choisi de passer 8 mois à scruter tout ce que poste une recrue de 19 ans sur Facebook, Instagram et particulièrement Periscope, qui est une appli qui dépend de Twitter, qui permet de faire du live. Vous avez regardé une centaine d'heures de vidéos à visage découvert, laissant apparaître beaucoup, finalement, sur le quotidien de ces jeunes soldats.
Je pense que l'armée aujourd'hui arrive pas du tout à gérer en fait le flux des images, des photos, des commentaires qui arrivent sur les réseaux sociaux. Donc du coup, comme tout le monde le sait, les militaires sont soumis au droit de réserve. Donc du coup, ils n'ont pas le droit de parler sans l'autorisation de leur hiérarchie. Et ben le fait est qu'ils s'en privent absolument pas. On est face à une population de millénium qui est systématiquement branchée sur Snapchat, Instagram.
On a déjà vu des infos ultra sensibles fuiter sur les réseaux à cause de cela.
Complètement. On cite des exemples. Par exemple, d'un militaire qui filme une soirée mousse dans un laboratoire nucléaire d'un porte-avions. Et donc, du coup, il met cette vidéo sur son compte Facebook en public, par exemple. Donc là, on est effectivement sur des informations ultra sensibles. On est aussi sur un militaire qui joue de la guitare en Afghanistan devant
Vous le racontez, c'est effarant.
Devant toutes les créneaux de radio.
De fréquences radio réservées à l'armée. Exactement. Qui, du coup, sont dévoilées dans le monde entier.
Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas du tout de maîtrise, ils n'y parviennent pas. Ils ont bien publié un guide des réseaux sociaux
en 2012
exactement, pour essayer de convaincre les militaires de raisonner, etc. Notamment par rapport aussi à ce qui s'était passé par rapport à l'affaire Mera, donc le djihadiste Mera qui avait
ciblé
des militaires suite à une annonce publiée sur Le Bon Coin, en fait, où les militaires avaient clairement dit qu'ils étaient militaires. Donc c'est comme ça qu'ils avaient pu les assassiner par ailleurs.
Justine Brabant, c'est extrêmement intéressant parce que pour vous, ça va être finalement un terrain de jeu, pour vous les journalistes, ça va être de nouvelles sources. De nouvelles sources, quand on s'attaque à une enquête sur la Grande Muette. Je vous cite, au pays des militaires, les communicants sont rois, ils font et ils défont enquêtes et reportages de silences organisés en porte fermée. Je cite ce qui vous est arrivé à vous, toutes les deux, précisément, pendant ces mois d'enquête, promesses de reportages sur le terrain retirées in extremis, volte-face des services de santé de l'armée, menaces de poursuites judiciaires, et le centre de presse du ministère qui tente l'intimidation en citant in extenso la loi sur la compromission du secret défense.
Oui, bah donc c'est effectivement un petit peu comme c'est un peu l'ordinaire de, je pense, de ce qui se passe quand on cherche à enquêter sur l'armée, qui est de toute façon en France une institution très verrouillée. À ça vient s'ajouter un espèce de climat ces derniers temps qui tourne beaucoup autour de l'intimidation en avançant la question du secret défense. Mais ça, Leïla pourra aussi en parler puisqu'elle est secrétaire.
Leïla Mignano, voilà, secrétaire générale de Disclose, qui est un site d'investigation qui vient d'ouvrir, qui a publié des révélations sur les ventes d'armes françaises et leur utilisation au Yémen, et hop, convocation à la DGSI des journalistes convoqués.
Toujours par rapport en invoquant cette loi sur la compromission du secret défense. Donc il y a cette ambiance quand même un peu particulière de ces derniers mois qui forme vraiment quelque chose de difficile à enquêter, et nous on réussit à le faire notamment parce qu'il y a cette entrée possible par les réseaux sociaux effectivement, et puis aussi parce qu'on choisit d'aller sur le terrain, là où les militaires se sont rendus en opération extérieure, en l'occurrence en Centrafrique, c'était l'opération Sangaris entre 2013 et 2016. Et en fait, quand on va voir les gens qui les ont fréquentés, bien sûr qu'ils ont aussi des choses à raconter, bien sûr qu'ils ont gardé aussi un petit peu des témoignages de leur passage et ou des pièces par rapport à comment ils ont agi sur place.
Alors, les scandales de l'opération Sangaris, pardonnez-moi, en Centrafrique, ils ont déjà été révélés, ils ont déjà été publiés, ils ont déjà été médiatisés, ils ont peut-être déjà été jugés. Petit rappel.
Les crimes présumés auraient eu lieu au printemps 2014 dans ce camp, à proximité de l'aéroport de Bangui. Une sœur et un frère de 7 et 9 ans affirment avoir été abusés sexuellement par des soldats français de l'opération Sangaris. Des actes en échange de bouteilles d'eau et de sachets de biscuits. Des accusations qui s'ajoutent à d'autres plus anciennes qui visaient déjà des Français.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes retourné sur le terrain, Leïla Mignano. Vous avez parlé avec des militaires, vous avez parlé avec d'anciens militaires, vous avez parlé avec les enfants qui ont grandi, vous avez parlé avec les filles, vous avez parlé avec les prostituées, vous avez parlé en fait avec la population de ce camp de réfugiés que les Français étaient supposés protéger et dont en réalité, pour certains, ils ont abusé.
Tout à fait. On revient pas sur les accusations de viol visant les soldats français de l'opération Sangaris. On révèle d'autres exactions qui est passé sous silence jusque-là, donc un cas de torture, un cas de meurtre, une balle perdue, etc. Et pour nous, l'important, ça a
été... En fait, je vais vous le dire, quand on lit votre livre, ça ne s'arrête plus. On a l'impression qu'en Centrafrique, vous ouvrez un tiroir et que d'autres s'ouvrent en continu sous nos yeux effarés de lecteurs. Ça ne s'arrête plus. Vous racontez des règlements de compte, vous racontez des passages à tabac, vous racontez le corps d'un homme centrafricain sur lequel un char français militaire a roulé en pleine rue devant une foule en délire.
Et pour nous, l'important aussi, ça a été de mettre en miroir en fait le regard des Centrafricains sur l'armée française, mais également recueillir la parole des auteurs de ces exactions. C'est quelque chose, on voulait absolument boucler la boucle, comprendre ce qui s'est passé dans la tête de ces jeunes qui peuvent être mon cousin, mon petit frère, mon fils. Comment ils en arrivent à commettre des actes comme ça? Et en face, quel est le regard de ces Centrafricains qui pensaient que les soldats français allaient les protéger et qui au final se retrouvent eux-mêmes victimes ou survivantes des exactions de l'armée française.
Justine Bravo.
Vous disiez ça s'arrête jamais quand on regarde ce qui s'est passé, c'était pas un plaisir particulier pour nous de détailler toutes ces exactions, toutes ces situations particulièrement violentes, mais on l'a fait aussi parce que je pense que c'est quand on envoie nos soldats à l'étranger, souvent on en parle peut-être dans les médias au moment où l'opération est déclenchée, puis après on oublie un petit peu. Ça a peut-être aussi un rapport, je sais pas, avec la situation de la presse et la possibilité économique ou pas de se rendre sur place pour faire le suivi de la part des médias. Mais nous, on a eu l'occasion de le faire, donc on a voulu vraiment aller sur place et documenter tout ça.
Mais de toute façon, c'est le contrepoint, c'est le fil rouge de tout votre livre, c'est-à-dire ce qu'on vend comme rêve et comme promesse publicitaire aux jeunes recrues et ce qu'ils vont vivre sur le terrain en réalité.
Bien sûr, mais dans tout ce qu'on raconte, on peut imaginer malheureusement que ça n'est même pas encore tout, puisque nous, on a veillé à détailler les cas sur lesquels on avait pas seulement des récits de personnes sur place, y compris à Bangui, mais aussi des documents qui pouvaient attester, retracer, que ce soit des pièces judiciaires le plus souvent, des certificats médicaux pour la personne qui a pris une balle perdue. Donc on peut imaginer que, vu qu'on s'en est tenu que ce à ce qu'il était possible de documenter de manière très, très solide, en réalité, il y a bien plus.
Leïla Mignano, vous avez aussi voulu documenter un après-coup, c'est-à-dire l'après, le retour de Centrafrique, l'après-armée, ceux qui sortent, puisque finalement on y reste si peu de temps dans l'armée.
On parle souvent du syndrome du choc post-traumatique, donc des militaires de retour de mission, mais aussi des journalistes, des humanitaires, etc. Et on les voit souvent sous médicaments, alcoolisés, etc., au fin fond de la dépression, mais les militaires peuvent passer à l'action. Ils sont formés par l'armée française pour passer à l'action et ils ont pour certains ce besoin d'adrénaline, en fait, de retrouver cette adrénaline. Ça fait partie du syndrome du choc post-traumatique. Et donc du coup, on a voulu raconter ces histoires de militaires qui passent à l'action, donc du coup, qui deviennent braqueurs. Ouais. Donc du coup, au début, on en raconte un, et puis après, on s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres. Donc on raconte trois récits, donc trois militaires qui sont devenus braqueurs et qui ont accepté de nous raconter, qui auraient dû se retrouver sur le canapé d'un psychologue qui malheureusement se sont retrouvés derrière les barreaux, en prison. Et donc du coup, après avoir commis des braquages d'un cache-converteur, d'une boîte de nuit...
Et d'une bijouterie.
Merci beaucoup à toutes les deux. Mauvaise troupe, la dérive des jeunes recrues de l'armée française. Une enquête, donc, sur la grande muette. Justine Brabant et Leïla Mignano, ça vient de sortir aux arènes. C'est la fin de l'émission.